Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant quand le petit matin lui dit viens, 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 viens. Éduquer, verbe transitif du latin educare, former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. A, préposition du latin ad, vers, aller vers, se diriger, se mettre en mouvement dans le rythme de sa vie. Environnement, nom masculin, ce qui entoure de tous côtés, voisinage, environné, de environ, de l'ancien français viron, cercle, rond, autour de. Bienvenue dans la Drôme Nature, l'ADN, chronique drômoise de l'éducation à l'environnement. Depuis la nuit des temps, les grands accompagnent les enfants. Dehors, dedans, des parents, des animatrices, animateurs, éducatrices, éducateurs, accompagnent les plus jeunes au cœur de leurs apprentissages et leur transmettent des connaissances sur leur environnement qui leur permettent de grandir, s'épanouir et s'adapter au fil des changements. Comment éduque-t-on à l'environnement aujourd'hui dans la Drôme? 2000 façons, me diriez-vous, et vous auriez raison. C'est à travers le réseau drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE, que je nous emmène découvrir ce monde local qui nous entoure. La raison d'être de ce réseau, soutenu par le Conseil départemental, est de promouvoir l'éducation à l'environnement dans le département de la Drôme. Il a pour objectif la mise en lien, la mutualisation des pratiques et des ressources, la coordination de projets et le partage d'expériences dans le champ de l'éducation à l'environnement à l'échelle départementale. Sans plus attendre, voici donc notre portrait du jour. Alors aujourd'hui, je nous emmène à la rencontre de Maëlle Lemaire, qui est animatrice pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Donc nous sommes au Collège de l'Europe, Jean Monnet, à Bourg-de-Péage. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Alors, si tu veux te présenter à nous.
Alors, moi, je m'appelle Maëlle Lemaire. Je travaille à la LPO Drôme Ardèche. Moi, je suis originaire du Vaucluse, donc c'était une belle découverte pour moi, la Drôme. Et j'en suis arrivée à travailler à la LPO parce que, étant plus jeune, j'ai eu droit à une animation scolaire par une animatrice de la LPO. Et moi, j'ai tout de suite adhéré. Je me suis dit, ah, mais c'est génial de parler des oiseaux à l'école. Et je me suis dit, quel beau métier. Et donc, c'est de là que je me suis dit que j'avais envie de faire ce métier-là aussi. Donc c'était pas forcément évident, j'ai commencé par différentes LPO, notamment LPO Île-de-France, après j'ai fait LPO Haute-Savoie, avant d'atterrir finalement dans la Drôme, et j'en suis plus que ravie. Pour vous présenter un petit peu la LPO, donc c'est une association nationale de protection de la nature. C'est pas une association seulement de protection des oiseaux, malgré son nom qui veut dire donc Ligue de protection des oiseaux. Mais c'est plus historique. Maintenant, c'est une association qui s'est diversifiée, notamment sur la protection des chauves-souris ou des missions autour du hérisson. On travaille avec différents partenaires. Ça peut être donc des écoles dans le cadre de sensibilisation, avec les entreprises pour les accompagner à être un peu plus vertueuses et faire des aménagements sur leur site, avec des collectivités, faire des formations auprès de gestionnaires d'espaces verts. Ça peut être aussi, on peut faire de la sensibilisation auprès de publics handicapés, publics difficiles. Enfin, voilà, on a vraiment tout un panel de travaux et de partenaires et d'implications. Donc c'est ça qui est très très riche à la LPO, c'est qu'on croise plein de profils différents et du coup nos journées ne se ressemblent pas. Donc c'est très intéressant. J'ai une particularité, c'est que j'adore travailler surtout avec des publics un peu dits difficiles, donc un milieu social un peu plus compliqué. Notamment là, j'ai des projets en institut médico-éducatif, donc des gamins qui ont un peu du mal au niveau scolaire, qui sont déscolarisés. Donc ça, c'est des super projets et c'est des publics avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Et un nouveau projet avec des jeunes suivis par la police judiciaire à Valence. Des jeunes qui n'ont pas l'habitude de sortir. Donc ça a été des grands moments d'aller les emmener voir les vautours dans le Vercors. Parce que leur première question, c'était « Ah, mais ça coûte combien un vautour ?» Parce que ça peut être sympa, ça, sur le marché, de le vendre. Voilà, on se rend compte que c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller dehors et de découvrir la nature et que tout ne s'achète pas, ne se vend pas. Et donc c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Et sur leur site d'accueil, on a creusé une mare. Et on a fait des plantations d'arbres, donc ils ont mis la main à la pâte et, pour rendre un peu plus vert leur espace et un peu plus accueillant, parce que c'était un peu triste comme espace. Et donc si vous voulez rejoindre la LPO, ben n'hésitez pas, on a toujours besoin de bénévoles, on est toujours partant avec plein de nouveaux projets, donc n'hésitez pas. J'ai oublié aussi de parler du réseau, donc du RDE, avec lequel on travaille, on est membre. Donc ça, c'est hyper riche parce qu'on travaille avec plein de profils différents et notamment sur un projet autour de la biodiversité dans les collèges où on est en binôme avec un autre animateur et du réseau. Et là, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai énormément appris avec les éducateurs avec lesquels j'ai travaillé parce qu'il y a différentes approches. Moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec certaines approches et ça a été hyper formateur pour moi. Donc, c'est toujours un vrai plaisir de travailler dans ce réseau d'éducation de Romois. Et on se rend compte que voilà, chacun a des approches différentes, mais on a tous le même but. On veut tous rendre la nature au cœur des villes et au cœur des enfants et des gens et qu'ils se rendent compte un petit peu de tout ce qui nous entoure et comment on peut le protéger et valoriser. Moi j'aime beaucoup juste amener les enfants dans la nature et les laisser juste sans forcément les guider mais juste voir un peu ce qui se passe, comment ils réagissent, est-ce qu'ils vont plutôt s'orienter en regardant par terre, sur le sol, sur les arbres ou dans le ciel. Et vraiment les laisser explorer et sans forcément les guider ou je leur donne des consignes parce qu'ils ont quand même beaucoup de consignes à l'école et on leur dit à la maison. Et donc là, j'ai vraiment envie de les laisser explorer et plutôt les prendre par la main et les guider mais sans leur imposer des choses. Et c'est plutôt ma manière de travailler qu'ils explorent sans que j'impose en fait.
Est-ce que tu aurais un petit message là, pour le troisième millénaire que nous vivons ? Est-ce que tu aurais un petit message au cœur là, à partager ?
Eh ben, j'espère qu'il y aura du changement. Enfin, pour moi, ça serait vraiment que ça change, qu'il y ait des bouleversements et qu'on puisse vivre beaucoup mieux avec la nature et pas que la nature reste quelque chose d'éloigné, mais qu'elle soit vraiment au cœur de tous et de chacun.
Merci beaucoup, Maëlle.
Mais de rien, merci.
Aujourd'hui, on part ensemble pour la première sortie. Il y en aura deux. Et donc, première sortie de proximité, on va marcher cet après-midi jusqu'au Bois des Nez. Et quand on arrivera là-bas, bon, vous verrez, on ne va pas tout vous dévoiler tout de suite pour garder un petit peu de mystère. Mais le but du jeu de cet après-midi, c'est d'observer les oiseaux, mais aussi les autres animaux qu'on va pouvoir voir et entendre au Bois des Nez. Donc, on va faire une sorte de petit inventaire simplifié de tout ce qu'on va pouvoir observer cet après-midi au Bois des Nez. Et après, on utilisera ça pour faire une petite comparaison, un comparatif avec ce qu'on verra pendant la grande sortie qu'on fera tous ensemble, bien plus loin et dans un autre milieu naturel très intéressant aussi. Et pendant cette sortie, vous n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser toutes les questions que vous avez dans la tête, à nous arrêter si jamais vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose sur lesquels vous avez envie qu'on s'arrête.
Ce que c'est que le groupe École Déléguée,
pour expliquer quelle est votre démarche au sein du collège.
En fait, tout d'abord, on essaie d'améliorer l'écosystème dans le collège. On essaie de trouver toutes les failles dans le collège, on essaie de les améliorer. On crée de nouveaux jardins, un nouveau nid pour les oiseaux et plein d'autres choses. En fait, c'est toutes les classes du collège, ils doivent se présenter et le reste de la classe, ils doivent voter pour eux. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont présentées. Et tous ceux qui sont dans cette sortie, c'est eux qui ont été élus.
Parce qu'il y a combien de classes de 6e ?
De 6e, je crois, 8.
Ah, donc là, vous avez des représentants des 8 classes de 6e ?
Oui, des 5e et des 4e. Ouais.
Ok, super, merci.
C'est trop bien.
En fait, ils vont faire une fête de la nature. Qui présentent un petit peu aux autres élèves ce qu'ils ont fait, par des photos, par des supports, et qui ça rayonne un peu partout sur le collège en fait.
Donc c'est eux qui mettent en action les projets de nichoirs, d'installation.
Ouais. C'est vraiment eux qui vont prendre la main. Nous on va leur donner des clés en fait. On va faire un tour de cours avec eux pour voir un peu comment ils peuvent améliorer la cour, sur les aménagements, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis après ça sera à eux de lancer le truc et de s'investir sur la cour.
Super, et c'est bien suivi par les chefs d'établissement.
Oui. Les enseignants, ils sont bien derrière et on a vraiment un support derrière des chefs, enfin du proviseur.
Même financier, quoi, pour les installs.
Ça va être un peu, on va voir comment on va faire. Ouais. Mais,
Des
canards.
Quoi?
Colvert. Ok. Alors, est-ce que c'est que des canards colvert là? Parce que moi, j'en vois des marrons, j'en vois des gris. Ah, il y a des cannes. Mais c'est quoi une canne? C'est quoi?
C'est la femme du canard.
C'est la femelle. Alors, chez les animaux, on dit plutôt femelle. Et comment ça se fait que... Ah, regardez là, celui qui vole, qui va atterrir. Hop. C'est qui celui-là?
Pas une poule d'eau.
Un peu plus gros,
ouais. C'est une poule d'eau? Non.
Qui dit mieux? Tout noir, avec un grand bec. Il adore pêcher les poissons, tu connais pas celui-là?
Un miro. Si, mais...
Ça commence par un C.
Cormoran.
Ouais. Très bien. C'est le grand cormoran, celui-là, qui adore pêcher les poissons. C'est celui que vous voyez sécher ses ailes au bord de l'eau? Vous l'avez peut-être déjà vu celui-là, non, qui étend ses ailes séchées au soleil.
Quand il se tient dans cette position dont tu parles pour sécher ses ailes, les ailes écartées, je suis sûre que ça, vous l'avez déjà vu, soit un jour vous le verrez, parce que c'est très souvent qu'il fait ça. Il y a une autre raison que pour sécher ses ailes. En fait, le cormoran, il va faire ça pour une raison qui est très importante. Est-ce que vous arriveriez à la deviner?
Impressionner.
Pour attirer les
femelles. Ça pourrait. C'est son.
Moi que ça pourrait, ouais, ça serait une bonne idée, une bonne piste de réflexion, mais c'est autre chose.
Pour faire de l'ombre et voir ses proies dans l'eau.
ça pourrait.
Non, en effet, c'est pas ça. Non.
Pour attirer les proies?
Non plus. Alors, je vais vous donner un indice. Il y a longtemps, il y a une étude qui a été faite sur les populations de cormorans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé deux grandes piscines. Dans une piscine, on a mis plein de poissons. Et dans une piscine, on n'a pas mis de poissons. Et on a demandé aux cormorans d'aller dans la piscine avec plein de poissons. Donc les cormorans, ils sont allés dans la piscine, ils ont mangé des poissons, ils sont sortis, ils se sont perchés sur le bord. Et on a demandé aux mêmes cormorans, après, de faire la même expérience avec la piscine où il n'y avait pas de poissons. Et on s'est rendu compte que les cormorans qui avaient mangé des poissons, c'était eux qui étendaient leurs ailes après, quand ils se perchaient sur le bord.
digestion.
Alors, à votre avis, du coup, pourquoi ils font ça?
C'est pour mieux digérer.
Ouais, exactement. En fait, un cormoran qui a mangé des poissons, plein de poissons, il va avoir besoin de faciliter sa digestion. Donc, il va ouvrir ses ailes. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Vous avez dû voir ça. Il les bouge. Il ne fait pas que les ouvrir. Il bouge un peu ses ailes, comme ça. Et il va actionner les muscles qui sont autour de son estomac. Et ça va, du coup, favoriser sa digestion. C'est comme ça qu'il digère mieux, plus facilement.
Pourquoi donc le cormoran, quand il sort de l'eau, il a des plumes toutes mouillées? Est-ce que vous avez déjà vu quand le canard il va barboter dans l'eau, l'eau elle fait quoi sur ses plumes au cormoran?
Ça glisse.
Ça glisse, l'eau elle glisse, d'accord? Parce que les oiseaux ils ont une glande dans leur bec. Quand ils se lissent les plumes, c'est un peu comme s'ils mettaient de l'huile sur leurs plumes. Et l'eau et l'huile, qu'est-ce que ça fait?
Bah l'huile elle flotte au-dessus de l'eau.
Exactement, ça ne se mélange pas, c'est pas possible. Comment ça se fait que lui, le cormoran, c'est un oiseau qui vit dans l'eau globalement, mais il n'a pas ce truc pour huiler ses plumes? Pourquoi il a pas ça, cet oiseau? Quand vous allez plonger dans l'eau, est-ce que c'est facile d'aller au fond ou est-ce que c'est pas facile d'aller au fond?
C'est facile.
Non.
Ça dépend si c'est profond.
Il faut du poids, il faut
aller plus lourd. Est-ce qu'il y en a qui font de la plongée? En plongée, on met une... Tu fais de la plongée, tu mets quoi autour de ta taille?
Une combine... des poids.
On met du poids, d'accord? On met une ceinture de plomb pour aller, pour que tu sois... au fond, parce que si tu mets pas de poids, ben, on risque de remonter. Et donc le cormoran, comme il huile pas ses plumes, et ben l'eau elle va rentrer dans ses plumes. Et donc qu'est-ce qui va se passer quand il va aller dans l'eau?
Il va aller au fond.
Il va pouvoir aller beaucoup plus profond que les autres oiseaux, parce qu'il est plus lourd que les autres oiseaux. Et je reviens sur les canards. On a dit que c'est pas exactement les mêmes, mais que c'était la même espèce. Comment ça se fait? Donc on a dit que c'était des canards quoi?
Col vert.
Ok, des canards col vert. Pourquoi j'ai pas les femelles qui sont pareilles que les mâles?
Parce que les femelles ont toujours un truc différent des mâles.
Pas toujours, mais oui, en effet, il peut y avoir des choses différentes, oui.
C'est pour mieux se camoufler et bien protéger les petits.
Exactement. La femelle, il faut qu'elle soit beaucoup plus camouflée quand elle va couver les œufs. Vous imaginez, si le mâle il couve les œufs, il va se faire griller par le renard direct. Alors que la femelle, elle est beaucoup plus discrète, d'accord? Si on regarde là, c'est qui que vous voyez en premier?
Le mâle.
C'est les mâles. C'est le gris qui va... On va voir beaucoup plus facilement le gris que les femelles. Elles sont beaucoup plus discrètes. Elles sont beaucoup plus camouflées. Venez au mois de mars, c'est un endroit, on appelle ça un dortoir. C'est là où des oiseaux vont venir dormir. Oh, il y a un oiseau, regardez, il y a un oiseau qui passe.
Oui, celui-là, je l'ai vu voler.
Et il y en a même un qui s'est perché tout en haut dans l'arbre, deux même. Il y a un couple. C'est des petits rapaces. Je suis sûre que vous pouvez les voir à la nuit.
Là, ils tournent.
Hop là, il y en a un qui arrive par nous. Il tire à gauche. Tac, voilà, très fin, avec des ailes très fines, très, très allongées. Un petit rapace, c'est le faucon cresserelle.
Ça, c'est autre chose.
Noir et blanc, vous connaissez ça. Noir et blanc avec une très longue queue.
Papy.
Voilà, la petite bavarde.
Donc ici, c'est un dortoir. Ça veut dire que c'est un lieu de rassemblement d'une espèce d'oiseaux qui vont venir se regrouper ici pour dormir. Et ces oiseaux, ce sont les milans noirs. C'est un dortoir à milan noir. Il y a 2 ans, et l'année dernière, il y en a 500 qui ont été comptés. Donc si il y a une soirée au mois de mars, vous avez envie de voir des milans noirs, et bien vous venez vous mettre ici ou un peu plus bas, et ils sont là. Et on a une colonie de corbeaux freux aussi qui vient nicher, mais on a les deux espèces. Donc ça, c'est vraiment très sympa à voir.
Un oiseau, un gros rapace qui est plutôt foncé comme son nom l'indique, marron, et surtout qui a une queue en forme de V comme ça. Donc quand vous voyez ça dans le ciel, un gros rapace avec une queue en forme de V, il n'y a que 2 espèces qui ont ça en France, c'est le milan royal et le milan noir. Donc la différence entre les deux, c'est surtout la couleur. La couleur que vous allez voir assez facilement, sauf s'il y a une mauvaise lumière, mais normalement ça se voit bien. Donc le Milan noir est vraiment très brun, alors que le Milan royal, il va avoir du roux, du blanc. Voilà, il est plus contrasté. Le Milan noir est vraiment très brun. Donc ça, je suis sûre que c'est un oiseau que vous pouvez voir même en dehors du dortoir à partir de mi-mars. Hein, il revient de migration, donc vous pouvez le voir assez facilement. Rapidement aussi, peut-être la différence entre la mouette et le goéland. Vous avez identifié un petit peu les critères?
Bah, le goéland, il a un plus grand bec.
Alors, il y a une histoire de grandeur, t'as raison, mais c'est pas que pour le bec.
C'est les ailes. Parce que les mouettes, elles sont comme ça.
Ouais, grosse. Enfin, pour faire simple, en fait, c'est un oiseau qui est plus gros, souvent, hein, le goéland. Alors attention, il y a plein d'espèces différentes. Ça, je sais qu'avec Maëlle, vous avez parlé de la notion d'espèce en séance 1. Il y a plein d'espèces différentes de goélands, plein d'espèces différentes de mouettes, d'accord? Mais nous, on va simplifier un peu parce qu'après, c'est un peu compliqué. On va dire que celui qu'on voit le plus souvent ici, c'est le goéland leucophée. Et à contrario, celle qu'on voit le plus souvent, c'est la mouette rieuse. Et si je dois faire la différence entre les deux, il va y avoir une grosse différence en termes de couleur de bec et de pattes. Si on regarde la couleur des becs et des pattes des goélands, est-ce que vous avez déjà vu la couleur? Alors pour laquelle? Pour la mouette ou pour le goéland? Alors pour le goéland leucophée, non. Alors on est sur le goéland, on est plutôt sur un bec jaune, patte jaune. Et pour les mouettes, la mouette rieuse, elle a le bec rouge, patte rouge. Pour se souvenir, c'est assez facile, c'est le plus simple. Voilà. Et puis en période de reproduction, la mouette rieuse, elle va avoir une calotte, hein, le dessus de la tête, qui est brun chocolat comme couleur. Mais attention, c'est un peu compliqué, mais en dehors de la période de reproduction, elle perd ses plumes et du coup, elle n'a plus cette calotte brun chocolat. Mais le critère de taille est le plus important. Si vous voyez un gros oiseau, il y a plus de chances que ce soit le goéland que si c'est un petit oiseau.
Pensez, goéland, ça commence par un G, goéland gros, mouette minus.
Regardez, il y a des choses qui se passent en face de nous, là, les canards, il y a un petit conflit.
Ça, c'est les mâles, ça, hein. Ils font que se bagarrer tout le temps.
De quoi?
Il y a les canards.
Alors, chez les canards, il y a aussi... Bon, c'est pour ça qu'on voit souvent des petits conflits, des petites bagarres de canards. Mais on a ce qu'on appelle le sexe ratio. Bon, ça c'est compliqué. Mais grosso modo, il y a plus de mâles que de femelles. C'est très déséquilibré chez les canards. Et donc souvent, les mâles se bagarrent pour les femelles à un peu n'importe quel moment de l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent un peu des conflits chez les canards.
Le canard, en fait, quand genre, il veut s'accoupler avec une femelle, mais qu'elle s'est déjà accouplée avec un autre, il la noie.
Alors, c'est pas forcément... qu'elle s'est déjà accouplée, mais par contre, en effet, des fois, les canards, ils se mettent à plusieurs sur une femelle. Et ça peut arriver, bon, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver en fait qu'il y ait des cas de noyade de femelles. Donc ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes.
C'est très violent chez les canards. On n'a pas le consentement ou tout ça, des choses que l'on peut apprendre nous, mais chez les canards, ça se passe pas vraiment comme ça. C'est pas tout le temps comme ça chez les oiseaux, d'accord? Chez les canards, c'est vraiment violent, mais pas chez les autres. Oui, on n'a pas envie d'être une canne.
Mais en revanche, par exemple, chez d'autres oiseaux comme les cigognes, tout est partagé. Parce que là, on voit bien, chacun a son rôle, le mâle a son rôle, la femelle a son rôle. Mais chez d'autres oiseaux comme les cigognes, ils partagent tout. Mâles et femelles font ensemble le nid, mâles et femelles vont couver à tour de rôle, mâles et femelles vont éduquer les jeunes à tour de rôle, etc. etc. Donc voilà, dans la nature, regardez juste au-dessus de nous, paf.
Ça siffle. Là. On se remet en route?
Non, après on est ici. C'est possible. Bon, on a ici.
Donc, est-ce
que
tu les as vus?
Oui,
les oiseaux.
Je m'appelle Erin, j'ai 12 ans, ça fait 2 ans que je suis éco-déléguée.
Ça m'a plu au début, c'est quand j'étais en CM2, il y a du coup quelques éco-délégués qui étaient venus dans mon école, qui nous ont montré, expliqué ce que c'était. Du coup, ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu me présenter en 6e. Et depuis que j'y suis, depuis l'année de 6e, bah, ça me plaît énormément. J'apprends beaucoup de choses sur la biodiversité et ça me plaît de défendre la planète Terre.
Super, bravo. Et est-ce que tu as le rôle aussi de transmettre à tes camarades de classe?
Oui.
Et comment tu t'y prends alors?
Bah, je leur explique comment ce qu'on a fait, pourquoi on fait ça et ce que ça nous apprend, ce que j'ai appris moi et ce que on pourrait apprendre pour mieux défendre la Terre et défendre sa biodiversité et ses habitants.
Super. Et à quel moment alors tu communiques avec les autres élèves?
Le plus souvent, c'est après des sorties ou après des réunions ou après des activités des éco-délégués pour leur transmettre ce que j'ai fait.
D'accord. Donc les professeurs te laissent un temps pendant la classe où tu vas en parler?
Oui.
Oui, c'est pas pendant la récréation, quoi.
Non.
Et là, quel projet tu proposes là pour l'école?
Bah, c'est mon autre éco-délégué qui est allé à la réunion. Mais du coup, je lui avais donné des idées. On avait proposé de faire une marche verte, de sensibiliser d'autres collèges ou d'autres personnes en public pour qu'on ne soit pas que des enfants les seuls à protéger la planète Terre, qu'on soit plus ensemble.
Bah, je te remercie.
De rien.
Centres de soins un peu partout en France. Donc des centres de soins, c'est un peu comme, pour faire très simple, un hôpital pour les animaux sauvages. Et ces centres de soins, ils sont là pour justement soigner les oiseaux et les animaux sauvages. Et c'est vraiment eux qui sont capables de le faire. Nous, même Maëlle et moi, on n'est pas capables. On n'est pas des vétérinaires. On n'a pas ces compétences-là, en fait, de soins. C'est comme d'apprendre le métier de médecin, c'est complexe. Et donc dans ces centres de soins, il y a des gens qui peuvent soigner ces animaux et ces oiseaux sauvages. Donc il faut à tout prix essayer de se débrouiller pour que ces oiseaux-là ils soient emmenés en centre de soins. Et pour ça, on a tout un réseau de bénévoles, donc des gens qui se sont portés volontaires pour emmener les oiseaux et les animaux sur ce centre de soins. Et le plus proche d'ici, c'est celui qui est sur Lyon, qui s'appelle l'Hirondelle. Donc il faut les emmener jusqu'à Lyon. Alors bien sûr, on ne vous demande pas de faire ça vous-même si vous n'avez pas le temps. Mais par contre, vous pouvez nous appeler et nous, peut-être, on trouvera le bénévole qui voudra bien aller emmener l'oiseau au centre de soins. Et si je vous dis ça, c'est que ça peut vous arriver, un jour ou l'autre, de trouver un animal sauvage blessé, un oiseau blessé. Et surtout au printemps. Au printemps, on trouve souvent des animaux qui sont un peu en difficulté. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qui se passe au printemps qui fait qu'on peut trouver des oiseaux en mal en point, on va dire? Qu'est-ce qui peut se passer pour les jeunes oiseaux au printemps?
Quand les oisillons tombent des nids.
Ouais, très juste. Alors, un oisillon tombé du nid, qu'est-ce qu'on fait?
On le remet dans le nid, il ne faut pas le toucher.
Si, c'est très juste ce que tu viens de dire. Alors, dans l'idéal, on devrait toujours remettre un oisillon tombé du nid dans son nid. Mais des fois, c'est pas simple, parce qu'on ne voit pas toujours le nid, ou alors le nid n'est pas accessible. Alors, si jamais on ne voit pas le nid ou qu'il n'est pas accessible, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut le mettre dans un carton et en attendant qu'on puisse l'amener à un endroit où il sera.
Alors, le carton est une très bonne idée. En revanche, attention, attention, un oisillon tombé du nid, on ne le garde pas avec nous et on ne l'emmène pas forcément dans un centre de soins parce que ce qu'il a besoin, cet oisillon, c'est d'être avec ses parents. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, les oiseaux, c'est pas comme les mammifères, vous pouvez les toucher. Les parents ne vont pas les rejeter si vous les touchez. Il n'y a que les mammifères pour lesquels c'est juste, parce que les mammifères, si vous leur laissez votre odeur, peut-être que les parents vont rejeter les petits. Mais chez les oiseaux, ce n'est pas le cas. En plus de ça, les parents, ils ont un très fort instinct maternel, et donc ils vont tout faire pour continuer à venir nourrir l'oisillon.
Donc,
l'idéal, voilà, c'est de ne pas le laisser par terre, parce qu'il peut y avoir un chat qui passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que tu disais, très bien, c'est une très bonne idée. On prend un carton. On va faire deux trous dans le carton, on va mettre l'oisillon dedans et on va le suspendre peut-être à un arbre. Ou alors le mettre en hauteur sur un muret, dans une, entre deux branches d'arbres. Toujours en hauteur, à l'abri des prédateurs, mais à proximité de l'endroit où vous l'avez trouvé, pour que les parents continuent à venir nourrir l'oisillon et que l'oisillon puisse grandir tout seul et s'envoler quand il sera autonome. Ça, c'est très important. Ne jamais, alors il y a plein de gens qui pensent avoir le bon réflexe en faisant ça, mais ne jamais garder l'oisillon ou l'emmener en centre de soins. Il a besoin de ses parents dans ce moment-là. Allez, c'est reparti.
Mais toujours autour du cou, d'accord, c'est un collier, donc toujours autour du cou. Vous allez pouvoir les écarter, d'accord, en fonction de votre taille d'écartement des yeux, d'accord. En général, bien serré, ça suffit. Alors là, il y a un peu de soleil, vous regardez bien évidemment pas le soleil dans les jumelles, d'accord, pour pas vous faire mal aux yeux. Oh, moi je vois un groupe, alors peut-être qu'on va se décaler un petit peu pour voir ce groupe d'oiseaux là. Venez, on va se décaler un petit peu.
Il est tout blanc.
Regardez sa couleur, la il couleur
blanc,
du bec.
Il est blanc avec les yeux noirs et le bec noir.
Oh, tu vas voir les yeux.
Carrément.
Et quand bientôt vous connaîtrez plein de choses sur tous les animaux sauvages, vous aurez les bons réflexes et. Et vous pourrez aussi transmettre ça, parce que ça, c'est très important, tout ce qu'on va vous raconter avec Maëlle. Bien sûr, on compte sur vous pour en parler autour de vous, aux parents, aux copains, etc. Quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, avec la faune sauvage, on a souvent des situations hein, où la faune sauvage rentre chez nous. Mais maintenant, vous saurez quoi faire. Et vous saurez qu'il n'y a pas de danger majeur, en tout cas en France, avec ces animaux-là.
Et on dit que dans 5 ans, les hérissons, ils n'existeront plus. Ils seront en voie de disparition.
Ah oui, les hérissons, c'est encore une autre thématique aussi qui est passionnante, mais c'est vrai que c'est un animal qui est en danger. Est-ce que vous savez pourquoi il est en danger particulièrement ?
Il est écrasé par la route. Et ouais, aussi ouais. Parce que quand on met des clôtures autour de chez nous et que les hérissons ils sont chez nous, et bah, ils meurent parce qu'ils meurent de faim à force de rester clôturés autour.
Enfermés, exactement. Les hérissons, en effet, ils sont victimes d'écrasements routiers de manière très, très, très importante. Et c'est des animaux en fait qui, pour se déplacer, vont toujours suivre des linéaires. Les linéaires, c'est quoi ?
La lumière.
Des linéaires. Linéaires, c'est des lignes, donc des lignes par exemple d'arbres, les haies. Ou alors en ville, ça peut être juste des murs, des routes, des murets. Et en fait, ils vont toujours suivre des linéaires. Et donc dans nos villes, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent les routes. Et c'est là qu'ils se font écraser, hein, en essayant de traverser la route par exemple. Et souvent, ils sont dans nos jardins en effet. Et ils ont besoin, les hérissons, à un moment donné, de bouger, d'aller dans un autre secteur pour trouver à manger, pour trouver de quoi s'abriter. Et c'est dans ces moments-là qu'en effet, ils peuvent se retrouver soit à être écrasés sur une route, soit à se retrouver bloqués par nos nombreuses clôtures, murs, murets en ville. Donc c'est en effet des animaux qui sont très touchés par ça, qui sont en danger. Et c'est pour ça qu'on essaye au maximum d'expliquer aux gens que quand on a un jardin, même si on a envie d'être un peu isolé du voisin, c'est bien de toujours laisser un passage pour que les hérissons puissent circuler.
Et aussi quand ils mangent dans nos potagers, il y en a qui mettent des produits toxiques.
Très bien, exactement.
Et ben après ils les mangent, après ils meurent.
C'est la deuxième cause en effet de mortalité. C'est voilà, les pesticides, tous les produits toxiques qui sont mis autour de nous, dans nos jardins. En effet, ça va polluer la nourriture du hérisson. Et du coup, après, par accumulation, ça va devenir toxique pour le hérisson lui-même, donc le faire mourir.
Sene fenu kale jidi. fenni chidi, senni gna fenni chidi. We want free water.
C'était l'ADN, émission pour le réseau Dromois d'éducation à l'environnement, par Magali Gray.